France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Haliam Radio Rosana Piperis.
Produce ghetto in la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Pès.
Un jour dans le monde, c'est un jour entre les États-Unis et forcément l'Iran ce soir.
A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities.
Voilà, faut-il préciser que nous sommes en train d'écouter Donald Trump, donc c'est au moment où il annonce les frappes sur l'Iran. C'était ce week-end. Bonsoir Maria Kandel.
Bonsoir.
Vous êtes historienne spécialiste des États-Unis, notamment de leur politique étrangère. Vous signez une première histoire du Trumpisme parue chez Gallimard dans une collection qui s'appelle En attendant le réel. Et dans ce livre, justement, vous détaillez ce que sont les clés du Trumpisme et aussi de leur redéfinition au fond de la politique étrangère, même la redéfinition du rapport de l'Amérique au monde, et vous nous expliquez combien tout cela Donald Trump le porte depuis 2016, c'est même là-dessus qu'il est élu. Est-ce qu'une fois de plus l'intervention américaine en Iran a brouillé les pistes de notre compréhension du Trumpisme ?
Alors, dans un sens, oui, je crois absolument, hein, parce que c'est effectivement un reniement de ses promesses, de ce qui explique une grande partie de son ascension politique, le rejet des guerres de Bush, qu'il avait vraiment... c'est comme ça, en fait, qu'il s'était distingué de ses concurrents en 2016, qu'il avait émergé dans la primaire. Et puis, c'est quelque chose qu'il a encore répété dans sa dernière campagne, et même dans son discours inaugural. Il disait qu'il voulait être un faiseur de paix, qu'on jugerait son succès au fait qu'il mettrait fin à des guerres, pas qu'il en commencerait de nouvelles. Donc là, effectivement, même si on a beaucoup de spin en ce moment, hein, bon, on essaye de nous vendre quelque chose, frapper le territoire d'un pays sur ses installations les plus stratégiques, c'est un acte de guerre.
Ce qui transpire aussi du Trumpisme en vous lisant, ou plutôt d'ailleurs de Trump lui-même en fait, c'est aussi son obsession d'être dans le camp des vainqueurs. Donc on a vraiment le sentiment aussi, et c'est peut-être pour ça qu'il transige sur sa règle, qu'il avait compris qu'Israël aurait très très vite la supériorité, et ce qu'on lit, c'est son besoin de dire « j'ai gagné » au fond. Et est-ce que ce besoin de dire « j'ai gagné » est encore plus fort que sa colonne vertébrale idéologique, si on peut dire qu'il a une colonne vertébrale d'ailleurs? Mais est-ce que c'est plus fort, en fait, ce sentiment de dire « j'ai gagné » ?
Je crois qu'il y a effectivement souvent même avec Trump, l'explication la plus basique peut être valable. Et là, le côté être dans le camp des vainqueurs, on l'a vu d'ailleurs dans la séquence, hein, le premier jour, on a eu un communiqué très laconique, même pas de soutien à Israël. Et dès le lendemain, face au succès, Trump a voulu participer à cette victoire. Donc ça, il aime ça, il n'aime pas être du côté des losers.
Et en même temps, il parie, et l'Iran d'ailleurs met en garde Trump, le parieur, après les bombardements américains. Et je me disais que c'était une vision finalement assez juste de l'Iran vis-à-vis de Donald Trump, de dire vous êtes en train de parier sur le vainqueur pour en récolter les fruits, méfiez-vous.
Il prend un énorme risque, hein, indéniablement, même si là on a l'impression d'un soutien du côté de ses électeurs. On sait que sa base, elle est profondément divisée là-dessus. Il y a les évangéliques qui soutiennent Israël, donc là, frapper l'Iran, ça les contente, mais ça peut s'éroder très rapidement. C'est ce qu'on avait vu d'ailleurs avec Bush, hein. Au départ, il y avait un soutien massif pour l'invasion de l'Irak, et puis il y a eu un retour de bâton tout aussi massif.
Après, ce qui était très impressionnant dans cette annonce dont on a passé un petit extrait, c'est qu'il arrive avec une casquette MAGA, donc on voit bien où est le message. Dans la foulée, il dit on a tiré, mais ne vous inquiétez pas, maintenant c'est fini, donc on voit aussi à qui ça s'adresse. Et dans la foulée aussi, il remercie Dieu, il l'a fait très très longuement. On a l'impression qu'il fait des clins d'œil au fond à tous les électeurs à la fois, à tous ceux qui l'ont construit à la fois, donc les isolationnistes, pardon, les évangélistes, les protectionnistes. On a l'impression que dans ce moment-là, il essaye de faire un clin d'œil à tout le monde en même temps.
Oui, absolument. D'ailleurs, tous les témoignages disent qu'il était extrêmement attentif aux sondages, aux réactions de sa base. Il a reçu les plus grands influenceurs MAGA à la Maison Blanche juste avant. Mais il y a aussi ce fait, moi je trouve quand même, depuis l'été dernier, quand il y a eu l'attentat manqué contre lui, il invoque Dieu beaucoup plus souvent. Il dit son amour pour Dieu, il dit qu'il a été sauvé par Dieu. Je crois qu'il y a un côté messianique là qu'on n'avait peut-être pas avant chez Trump, qui est beaucoup plus marqué.
Dans votre livre, Maya Kandel, vous dites que Trump a ce qu'on appelle une diplomatie performative, hein, c'est-à-dire qu'il l'a prouvé effectivement au tout début de son mandat. Ce sont les mois à l'emporte-pièce autour du Canada 51e État, autour du canal de Panama, autour du Groenland, tout ça mélangé avec son ardu deal qu'il essaye d'exercer face à la Russie notamment. Quelle place elle a, à votre avis, cette guerre entre Israël et l'Iran, et donc le rôle qu'il y joue dans sa diplomatie performative? À quel point espère-t-il qu'on va rentrer dans le performatif là-dessus?
Disons, oui, il y a une dimension performative. Après, même sur les exemples que vous citiez, il y a aussi des préparatifs militaires très concrets. Le Pentagone qui fait basculer le Groenland dans la zone du territoire américain. Donc, Il y a toujours un peu des deux. Là, je crois que vraiment, il est à la fois... Il est préoccupé par sa place dans l'histoire. Vraiment, là, il fait quelque chose que Netanyahou lui-même, hein, ça fait 4 présidents qu'il essaye de convaincre, de frapper. Il a réussi à convaincre Trump. Évidemment, le Moyen-Orient n'est pas le même et beaucoup de choses ont changé. Mais voilà, je pense qu'il y a cette dimension de où il pense à sa place dans l'histoire, son héritage. Et puis, il faut rappeler quand même toujours, le trumpisme, c'est un nationalisme. Donc, tout ce qui est la force brute, là, c'est pour lui, c'est synonyme de puissance. Il a quand même organisé une parade militaire pour son anniversaire. Il déploie la garde nationale pour quelques petits groupes de manifestants à Los Angeles. Il y a toujours ce rapport. D'ailleurs, pendant sa première campagne, il disait « je suis un militariste ». Donc, pour lui, c'est pas contradictoire, en quelque sorte.
Qu'est-ce qui se passe si l'Iran réplique, et notamment vis-à-vis de l'intérieur, si des soldats américains meurent, puisque ce sont les bases qui sont potentiellement là où le risque est plus grand, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça met à terre complètement l'ensemble du corpus, au fond, de politique étrangère qu'elle tient, ou pas?
Ah bah, je crois que si les États-Unis se retrouvent happés, si l'Iran réplique, que des soldats américains meurent, que Trump se sent obligé donc de répliquer aussi, là on est vraiment dans une situation de guerre entre les États-Unis et l'Iran, donc une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Par ailleurs, on sait, il est toujours convaincu là d'avoir fait une frappe ponctuelle chirurgicale, et donc d'honorer sa promesse de ne pas remettre des soldats américains au sol. Mais on sait très bien qu'une guerre, si une guerre de grande ampleur éclate, une guerre n'est jamais gagnée par la seule force aérienne. Donc, il devra déployer, et ce sera un reniement absolu de sa promesse.
Alors après, ce qui est intéressant, et vous le soulignez aussi, c'est que l'une des caractéristiques de Trump, on s'en est très vite rendu compte, c'est qu'il se lasse très vite des choses, en fait. Dans le premier mandat, c'était la Corée du Nord. À un moment, ça a été la grande histoire, et puis finalement, ça a disparu. On l'a bien vu, le même genre de réaction entre l'Ukraine et la Russie, si ça va pas assez vite et qu'il peut pas aller directement à l'essentiel, ça finit par ne pas l'intéresser. Au fond, il veut clore des chapitres. Et est-ce que c'est pas là, au fond, l'embourbement potentiel, même sans soldats sur le terrain, même sans retour de bombe, l'embourbement, c'est que le chapitre n'arrive pas à se clore. Et est-ce que là aussi, on n'est pas dans l'inverse de ce qu'il vend lorsqu'il arrive Donald Trump?
Sauf si l'Iran, effectivement, revient à la table de la négociation. Ça, on l'espère tous, mais c'est absolument pas garanti. Dans le cas contraire, je pense que les Iraniens vont être d'autant plus motivés à reprendre leur programme nucléaire, à faire comme les Coréens du Nord. Dans ces cas-là, et d'ailleurs un observateur des négociations depuis 20 ans disait, finalement, la seule fois où l'Iran a ralenti son programme nucléaire, c'est après la signature de l'accord sur le nucléaire iranien négocié par Obama, que Trump a torpillé dans sa première année de mandat. Donc, il y a vraiment là une... oui, effectivement, il va pas y arriver.
Il ne veut pas y arriver. Est-ce qu'il faut en conclure, Maya Kandel, quand même, quand on voit effectivement qu'il essaye de satisfaire tout le monde, mais enfin, néanmoins, il prend un parti lorsqu'il décide d'attaquer. Est-ce qu'il faut en conclure que les MAGA, au fond, sont le visage du trumpisme, c'est vrai? Donc, c'est la partie haute de l'iceberg, c'est ce qu'on montre dans les meetings, c'est ce qui fait le bruit, en fait, mais qu'en réalité, ils ont déjà été supplantés, au fond, peut-être par ceux qu'on appelle les nationalistes conservateurs, et toute cette frange-là qui est menée par J.D. Vance et autres, est-ce qu'ils ont déjà gagné? Est-ce que c'en est la preuve, ça, qu'ils ont pris le dessus ou pas?
Alors, je ne sais pas. Moi, Vance m'a paru un peu crispé dans sa déclaration, enfin, quand Trump faisait sa déclaration. Et puis, ce sont des idéologues, des intellectuels qui fournissent les idées, les programmes, mais ce qu'on appelle la base MAGA, ce sont les électeurs. Et en démocratie, les États-Unis sont encore une démocratie, ce sont les électeurs qui comptent. En revanche, il y a eu beaucoup de nouveaux électeurs de Trump qui a gagné le vote populaire pour la première fois, notamment des gens qui ont voté sur l'économie, mais aussi des jeunes hommes. On a beaucoup parlé du fait qu'une majorité des jeunes hommes de 18 à 29 ans avaient voté pour Trump cette fois. Et eux sont des gens qui sont très réticents, qui ne comprennent pas très bien ce qui se passe en ce moment, hein, si on en croit les premiers sondages, et qui donc pourraient abandonner le trumpisme et Trump assez rapidement s'il y avait un enlisement, si l'Iran réplique, ou voilà, si on a une guerre généralisée au Moyen-Orient.
Chez vous, c'est une tête de chapitre. Le trumpisme existe avant tout par Trump, par Donald Trump. Et pourtant, justement, et c'est pour ça que j'allais sur cette question, vous dites que l'armature, effectivement, intellectuelle, ce sont ces natcons, les nationaux conservateurs, leaders qui eux non seulement définissent donnent une idéologie à ce régime mais aussi espèrent lui donner une pérennité en fait. Donc et est-ce que là aussi est-ce que cet épisode là contrecarre y compris cette pérennité là en fait et cette idéologie des nationaux conservateurs à votre avis?
Alors ces nationaux conservateurs, pour l'essentiel, ils ont un programme qui est avant tout intérieur. En quelque sorte, ils sont inspirés de Viktor Orban en Hongrie. Ils veulent transformer les États-Unis en une démocratie illibérale. C'est vraiment un projet contre la modernité, qui s'exprime aussi contre l'éducation, qui veut remettre la religion au cœur de la vie publique, ce qui est quelque chose tout à fait contraire à la Constitution américaine. Et en fait, en politique étrangère, sur plusieurs points, en réalité, ils sont divisés. Mais il y a une chose sur laquelle ils s'accordent, et c'est peut-être lié à cet idéologue en chef un peu du mouvement qui est Yoram Hazony, qui est un intellectuel américano-israélien, c'est l'idée qu'en politique étrangère, il y a des bons alliés, ceux qui savent se battre, qui ont des armées, qui sont utiles, et les autres, pour eux, c'est même pas des mauvais alliés, c'est des protectorats, et ça ne sert à rien. Et les Européens sont un peu dans cette catégorie-là pour eux. Donc, à cet égard, je ne suis pas sûre, en réalité, pour eux, l'Iran, enfin le défi posé par l'Iran, par le programme nucléaire iranien, justement à l'existence de l'État d'Israël, est quelque chose de central. Donc, je crois que ça va avec leur ligne de pensée.
Ça va avec leur ligne, et en même temps, ce nationalisme-là, c'est comme ça que le définit cet idéologue dont vous parlez. D'ailleurs, avant tout, il est pacifique. Donc, dans cette séquence-là, théoriquement, on les trouve où, en fait?
Oui, alors, bon, moi, je fais une lecture un peu critique de cet idéologue qui réécrit un peu l'histoire, qui considère que Hitler n'était pas nationaliste, mais impérialiste. Et donc, son affirmation que le nationalisme est un pacifisme, je pense qu'on peut aussi tout à fait la contester, y compris, d'ailleurs, dans ce que fait l'État d'Israël en ce moment.
On peut la contester, mais néanmoins, c'est avec ça qu'ils arrivent, c'est ce qu'ils amènent. Donc, du coup, où est-ce qu'ils se retrouvent aujourd'hui, en fait, cela, par exemple. Et je vous pose la question aussi parce qu'on a l'impression que la pérennité idéologique, c'était ça, en fait. C'était cette frange-là. Est-ce qu'on perd une partie de la pérennité du trumpisme si ça secoue dans cette branche-là du trumpisme ou pas?
Pour moi, je pense pas réellement parce que pour eux, la redéfinition de la politique étrangère, America First, c'est en fait une rupture. C'est pas tant l'opposition interventionniste, isolationniste, qui est, bon, les étiquettes, c'est pratique, c'est facile, moi-même je les utilise. Mais en réalité, c'est revoir la politique étrangère des États-Unis et son rôle par rapport au système international que les États-Unis ont élaboré, construit après la Seconde Guerre mondiale. Ce que nous, on appelle le rôle de gendarme du monde. Et en fait, là-dessus, pour eux, il faut America First. La réponse à cela, c'est on a eu une définition beaucoup trop large des intérêts américains, ce qui nous a embarqués dans des guerres pour défendre la démocratie, soutenir des résolutions de l'ONU, etc. Eux disent il faut une redéfinition beaucoup plus étroite des intérêts américains. Or, pour eux, en tout cas pour ces théoriciens-là, le programme nucléaire de l'Iran constituait une menace parce que l'Iran est un adversaire des États-Unis depuis 1979.
Est-ce que vous sentez que c'est Trump qui mène la danse là-dessus? C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui décide, en fait, contrairement à ce qui a pu se passer, notamment pendant son premier mandat, mais là-dessus, est-ce qu'on se dit, cette fois, il a pris la politique étrangère à bras-le-corps, quoi qu'on en pense et quoi qu'il arrive, mais c'est lui qui l'a pris?
Alors, il l'a pris absolument, sur le plan intérieur, complètement. Il n'y a plus de résistance au Congrès, il y a des influenceurs qui résistent un peu, Tucker Carlson, par exemple. Mais là, dans ce cas précis, et je suis vraiment encore... Il y a beaucoup d'incertitudes, je suis encore en train de dire beaucoup de choses là-dessus, mais je crois que la plus grosse influence a été celle de Netanyahou. Et il y a eu une opération, on a plusieurs niveaux d'opérations psychologiques de la part des Israéliens, dans la manière dont ils ont essayé de tromper les Iraniens, la presse, etc. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi un peu manipulé Trump? Je pense que c'est une vraie question, on en saura sans doute plus dans les jours qui viennent.
On posera aussi la question dans la suite de cette conversation au téléphone sonne, effectivement, tout à l'heure. Est-ce que c'est Trump qui dit Netanyahou, tu ne peux rien faire sans moi, ou est-ce que c'est Netanyahou qui lui dit non, c'est le contraire? Maya Kandel, vous êtes historienne, merci beaucoup. Une première histoire du trumpisme publiée chez Gallimard dans la collection En attendant le réel. Merci beaucoup. La suite, ce soir, ce sont de grandes mâchoires qui ont fait peur au monde entier. C'est la scène d'ouverture avec la musique qui fait peur, la fille qui nage dans la nuit, toujours aussi efficace. Les Dents de la Mer ont 50 ans. et toutes leurs dents, si j'ose dire. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufraîche sous les radars.
En Russie, que devient le foot professionnel en autarcie depuis 3 ans?
Le Monde à 18h50 et Frédéric Seyss. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Fabienne, c'est le principal soutien économique de l'Iran. Pourquoi la Chine se fait aussi discrète?
Et la BO du Monde avec Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir, le Royaume-Uni en pleine nostalgie des années Britpop. Reformation d'Oasis, nouvel album de Pulp. Les Britanniques regardent 30 ans en arrière. Une façon peut-être de soigner leur déprime post-Brexit.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète ce n'est pas fini. Il passe par Brooklyn, New York avec Matt Berninger, le leader du groupe de National, qui est en solo cette fois. No Love est en playlist sur France Inter. Ce sont les deux notes les plus célèbres du cinéma américain qu'on identifie immédiatement à la mâchoire la plus célèbre du cinéma américain et nos cauchemars d'enfants. Jaws, les dents de la mer de Steven Spielberg, considéré comme le premier blockbuster de l'histoire, fête ses 50 ans. Le film aux 3 Oscars, énorme carton de l'été 75, qui a été tourné sur une petite île du Massachusetts, Martha's Vineyard, qui a organisé ce week-end un festival autour du film. Des centaines de fans se sont déplacés et aussi quelques guest stars, et le reste c'est Anne Lamotte qui raconte.
Dans le petit musée de Martha's Vineyard qui organise des conférences autour des dents de la mer, les fans se bousculent. On ne compte plus les t-shirts avec l'immense mâchoire. Jamie a du mal à porter toutes les affiches du film et les photos du tournage qu'il va ramener chez lui au Canada.
Quand mes parents m'ont emmené voir les dents de la mer au drive-in en 1975, j'avais 3 ans et j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. En 1979, ils l'ont diffusé pour la première fois à la télé. J'ai enregistré le son et le soir, je m'endormais en écoutant la cassette. Les Dents de la Mer, c'est comme un vieil ami pour moi. Le film nous embarque dans toute une gamme d'émotions sans qu'on s'en rende compte. Quand c'est fini, on se dit « Mon Dieu, je suis passé par la peur, l'excitation, le bonheur, le rire. » C'est rare au cinéma qu'un film soit parfait. Et ce film est parfait.
And it is perfect.
Jamie, chanceux, il est là au musée quand débarque, surprise, une des stars du film. Richard Dreyfuss, 77 ans. Dans Les Dents de la Mer, il est Matt Hooper, le jeune spécialiste des requins qui, avec le shérif et le vieux loup de mer, par traquer la bête.
Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute.
Je ne m'installe jamais pour regarder le film, mais s'il m'arrive de tomber dessus par hasard, je vais jusqu'au bout. Si on le regarde vraiment, on voit Steven Spielberg à l'œuvre. Parce qu'au départ, ce film, c'est quand même beaucoup de requins cassés.
En effet, sur le tournage de Dans de la mer, trois requins de 8 mètres chacun, mécaniques, une prouesse. Sauf que le plastique prend l'eau, le système ultra complexe de tuyaux qui les fait bouger aussi. Résultat, une phrase tourne en boucle sur le plateau.
Le requin ne fonctionne pas. Ça a forcé Steven à repenser ce qu'il allait montrer à l'écran. Et ça a donné un chef-d'œuvre. Il n'avait que 26 ans. C'est la marque d'un génie.
L'une des trouvailles du réalisateur, ne montrer le requin qu'après 1h20 de suspense. Avant cela, à la Hitchcock, il est suggéré, notamment par les deux notes inoubliables du compositeur John Williams. Une leçon de vie pour Heather, 33 ans, le requin des dents de la mer tatoué sur l'avant-bras.
C'est débile et un peu décalé, mais c'est pour montrer à quel point j'aime le film. Il y a tellement de choses qui n'ont pas marché sur le tournage, et au final, ça a tourné à leur avantage. Donc dans la vie, quand ça tourne pas rond, faut se dire que c'est peut-être pour le meilleur. C'est comme ça que je vois les choses.
Heather, prête à faire longtemps la queue devant un pub d'Edgartown, la petite ville qui sert de décor au film. À l'intérieur, séance de dédicace de Joe Alves, le chef décorateur des Dents de la mer. C'est lui qui dessine le fameux requin. C'était il y a un demi-siècle, il a 89 ans, il reçoit encore toutes les semaines des courriers d'admirateurs et il ne comprend pas bien pourquoi cette histoire-là de monstre fascine toujours autant.
Peut-être parce que c'est une histoire simple, trois gars, tout seuls, et un requin. Et le requin n'est pas créé par image de synthèse, non. Il est là, physiquement. Depuis l'arrivée des images de synthèse, il faut toujours faire plus. La simplicité s'est perdue. Donc au final, on fait toute une montagne des Dents de la mer, mais c'était juste un petit film de requin.
Oh là là, cette scène. Anne Lamotte pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et c'est d'abord en Colombie que nous sommes, où des soldats sont prisonniers.
Séquestrés par des habitants d'El Tambo, une ville qui se situe près du canyon de Micay, cette zone où l'armée colombienne tente d'entrer depuis des mois, car c'est une place forte de la production de cocaïne, contrôlée par les guérilleros de l'EMC, les dissidents des FARC, ceux qui ont refusé de déposer des armes lors de l'accord de paix avec le gouvernement il y a près de 10 ans. Hier, l'armée a fait savoir que 57 soldats, dont 4 sous-officiers, ont été kidnappés par des centaines d'habitants du coin qui leur tentent des embuscades en fait pendant leur patrouille. D'après les autorités, les civils exécutent en fait les ordres des guérilleros qui les menacent de les déposséder de leurs terres ou de s'en prendre à leur famille s'ils ne gênent pas les opérations militaires. Une trentaine de soldats ont ainsi été détenus 48 heures dans la même zone en mars. La situation est très tendue dans cette région et les négociations entre Bogota et l'EMC sont actuellement au point mort.
Nous sommes au Brésil avec une image surréaliste.
Un ballon comme percé qui se dégonfle en un instant et une nacelle en flammes qui s'écrase au sol après plusieurs dizaines de mètres de chute libre. Impressionnant accident de montgolfière samedi dans le ciel de Praia Grande, station balnéaire du sud du pays. Il y avait 21 personnes à bord, 8 sont mortes sur le coup. Une enquête est ouverte, mais pour le moment, on ne sait pas pourquoi le ballon de la montgolfière a pris feu. Le pilote qui a survécu a parlé aux enquêteurs d'un chalumeau dans la nacelle sans savoir dire s'il était resté allumé ou s'il s'était spontanément enflammé. Depuis, les réactions sont nombreuses au Brésil jusqu'au président Lula. Le ministère du Tourisme promet des annonces sur la sécurité et la professionnalisation du secteur dans les prochains jours. Secteur trop peu réglementé au Brésil, les pilotes de montgolfière n'ont pas besoin, par exemple, de certification particulière pour voler.
Et puis nous sommes en Russie, paria du football mondial.
Oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, déclenchée par Moscou, la sélection, comme les clubs russes, vous le savez, sont bannis de toutes les compétitions internationales. Pas de Coupe du Monde, pas de Ligue des Champions non plus. Alors après 3 ans en vase clos, comment le football russe a-t-il évolué ? Question posée par le média russe en exil Medusa dans un article repéré par Courrier International. Alors la première vraie difficulté pour les clubs, eh bien c'est l'argent, la non-participation. Participation aux Coupes d'Europe crée de sacrés trous dans les caisses, plusieurs dizaines de millions d'euros pour ceux qui jouaient avant la Ligue des Champions. La Ligue de football russe a donc conclu un gros contrat de sponsoring avec un site de paris sportifs dont elle est devenue quasiment totalement dépendante. Ensuite, le championnat russe, qui n'était déjà pas le plus connu au monde avant, il faut bien le dire, a totalement disparu des radars. La plupart des joueurs étrangers sont partis, ce qui a aussi fait baisser le niveau de jeu. Quant à l'équipe nationale, Cuba, Brunei ou la Zambie, voilà ses adversaires. Pas vraiment de quoi se challenger, de quoi faire craindre aux suiveurs de cette équipe, eh bien le déclin de la sélection russe. Cette année, c'est Krasnodar qui a remporté le championnat russe pour la première fois de son histoire, mettant fin au règne du Zénith Saint-Pétersbourg, vainqueur 6 ans d'affilée. Mais ça, personne n'en a parlé et ça risque de rester comme ça encore un moment.
Sauf vous, Kevin.
Voilà.
Bravo, c'est vraiment très très sous les radars. À demain, vous partez en refaisant un tour par les États-Unis avec les Yardbirds. For Your Love, ça date de 1965. Figurez-vous que c'est à cause de ce morceau qu'Eric Clapton a quitté le groupe parce que c'était trop pop pour lui. Voilà, c'est Thomas Langley pour les Fun Facts. Vous êtes dans Un Jour dans le Monde. For Your Love. Dream on me at night. For your love, for your love, I would give the stars above. For Your Love, The Yardbirds, sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Le Monde à 18h50, c'est Frédéric Seitz.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Ès. Le 18-20.
Et avant de vous écouter, Frédéric, juste un mot. Notez que plusieurs sources signalent en ce moment même des explosions dans le ciel de Doha, la capitale du Qatar. On n'en sait pas plus, si ce n'est que vous savez que la plus grande base américaine du Moyen-Orient est située au Qatar. Pour l'instant, donc, plusieurs explosions dans le ciel de Doha. On suit ça de près, bien évidemment. Frédéric, en attendant, la Chine est le premier soutien économique de l'Iran. Et pas seulement économique, d'ailleurs. Les deux pays ont même organisé à plusieurs reprises des exercices militaires en commun. Et pourtant, Pékin reste étrangement discret sur le conflit en cours.
C'était il y a 3 mois, des bateaux de guerre iraniens, chinois et russes, ensemble au large des côtes iraniennes. Exercice militaire en commun à la face du monde, démonstration de force baptisée cordon de sécurité 2025. L'objectif, disait alors Téhéran, c'est de montrer, je cite, que l'Iran ne peut pas être isolé. C'était il y a 3 mois et déjà une autre époque. Une poignée de semaines plus tard, voici l'armée iranienne décapitée, ses systèmes de défense neutralisés et les alliés chinois paralysés. Bien sûr, Pékin a fermement condamné les bombardements israéliens, une violation de la souveraineté et de l'intégrité de l'Iran, selon les mots du ministre chinois des Affaires étrangères. Mais au-delà des communiqués indignés, peu d'actions, malgré le pacte stratégique signé il y a 4 ans entre Pékin et Téhéran.
Alors pourquoi cette retenue de la Chine ?
Oui, pas question de s'impliquer militairement au Moyen-Orient, d'abord parce que la Chine est traditionnellement très rétive à se déployer en dehors de sa zone d'influence directe. Autant la marine chinoise n'hésite pas à aller à la confrontation contre les navires des Philippines, notamment à cause de conflits de territoire, autant elle se garde bien d'aller jouer les gros bras dans le golfe Persique. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle se désintéresse de la zone, en témoigne le succès diplomatique d'il y a 2 ans, le rapprochement Iran-Arabie Saoudite signé à Pékin sous l'égide de la Chine, qui avait mis fin à des années de rupture des relations entre les deux pays rivaux.
Et puis cette prudence chinoise, Frédéric, s'explique aussi par l'aspect économique.
La moitié des importations chinoises de pétrole transitent par le détroit d'Ormuz au large de l'Iran. Une fermeture de ce détroit causerait des dommages majeurs pour l'économie encore chancelante de la Chine. Cette voie maritime est vitale, a même déclaré cet après-midi un porte-parole de la diplomatie chinoise. Par ailleurs, Pékin sort de plusieurs semaines de mano à mano commercial avec Washington. Toute confrontation trop directe avec les États-Unis pourrait pousser Donald Trump à rouvrir le douloureux dossier des droits de douane, un retour de l'incertitude et de l'instabilité que veut évidemment éviter Xi Jinping.
Mais alors après les bombardements américains sur les bases nucléaires iraniennes ce week-end, la Chine peut-elle rester les bras croisés ?
À court terme, oui, pas vraiment le choix, mais à moyen terme, c'est tout autre chose. Ces frappes américaines sont du pain béni pour la rhétorique chinoise, rhétorique que je vous résume à gros traits. 1. Les Occidentaux prétendent défendre le droit international, mais ils le bafouent selon leurs intérêts. 2. Les mêmes Occidentaux ont abandonné le multilatéralisme, c'est-à-dire la discussion collective plutôt que la force. Voilà pourquoi les oreilles des États-Unis vont siffler lors du prochain sommet des BRICS. Le club des pays émergents se réunit dans 2 semaines à Rio. L'Iran en est un membre récent, la Chine en est l'un des piliers. Mais l'essentiel se joue à plus long terme et au large des côtes chinoises, avec une île, Taïwan, que Pékin compte rattacher à son territoire de gré ou de force. Et si elle emploie la force, la Chine aura beau jeu de rejeter les réactions occidentales en rétorquant qu'avec les bombardements en Iran, les États-Unis ont perdu toute autorité morale.
Merci beaucoup Frédéric Say. C'est donc, je vous le redis, des explosions ont été entendues par de multiples sources au Qatar, au-dessus de Doha, la capitale du Qatar, qui abrite, vous le savez, la plus grande base américaine du Moyen-Orient. Et ça, c'était peu de temps d'ailleurs après l'annonce par le Qatar de la fermeture justement de son espace aérien sur fond de tension après les frappes américaines de ce week-end. Voici où nous en sommes à 19h, et on en reparlera bien sûr dans le journal de 19h, à 18h54. En attendant, c'est Cyril Chauvageau et la BO du Monde.
France Inter, le 18-20.
Voilà, profitons de l'info un peu légère tant qu'on le peut, Cyril Sauvageau. Ce soir, nous sommes au Royaume-Uni où la tournée de reformation du groupe Oasis s'annonce comme l'événement musical de l'été, un vent de nostalgie des années Britpop qui souffle en ce moment sur les îles britanniques.
Et ils seront des centaines de milliers cet été à se masser dans les stades du pays, à Cardiff, Manchester, Édimbourg, ainsi qu'à Wembley, à Londres. Le prix exorbitant des places de concert n'a pas découragé les fans d'Oasis. Rien n'est trop beau pour pouvoir entendre ou réentendre en live ces refrains qui sont désormais inscrits dans la culture populaire. Le rabibochage des frères Gallagher ne pouvait pas mieux tomber 30 ans pile après l'heure de gloire de la Britpop. Ce phénomène typiquement britannique vit en ce moment un retour de flamme. Oasis ne sont pas les seuls à reprendre du service. Leurs anciens rivaux de Blur ont signé eux aussi leur retour il y a 2 ans avec un nouvel album. Et cette année, c'est Pulp, autre institution venue de Sheffield, qui fait son comeback après 24 ans d'absence. We'll be right back. Jarvis Cocker, le chanteur, leader de Pulp, n'a rien perdu de son mordant. La presse est conquise, les fans se régalent. C'est le retour au premier plan d'un groupe qui a marqué son époque avec ses chroniques sociales pleines d'humour, de noirceur, d'ambivalence, comme sur ce tube de 95, Common People. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. Dans le sillage de Pulp, Blur, Oasis, plein d'autres groupes de la même période qui ont parfois connu un succès très éphémère, se reforment, repartent en tournée, rééditent leurs albums. Bref, il y a clairement un filon.
Alors, que nous enseigne Cyril ce revival sur l'état du Royaume-Uni ?
Eh bien, peut-être qu'une partie des Britanniques est atteinte d'un syndrome bien connu. C'était mieux avant. Quand on a 50 ans, l'âge moyen des fans de Britpop, cette nostalgie de la jeunesse est assez inévitable, mais il semble y avoir autre chose à l'œuvre. Dans ce pays en plein doute, mal en point économiquement, qui digère encore les conséquences du Brexit, il fait bon se replonger dans une époque où le Royaume-Uni rayonnait à travers le monde. Milieu des années 90, la société britannique vit un moment d'euphorie après la déprime des années Thatcher. L'économie va mieux, une nouvelle vague d'artistes émerge. On parle alors de Cool Britannia, un phénomène que le leader des travaillistes, Tony Blair, va s'empresser de récupérer. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 97, il ira jusqu'à recevoir au 10 Downing Street les musiciens d'Oasis et de Blur, meilleur produit d'exportation pour son pays. He sat me down, so began. The story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that. La Britpop, symbole d'une époque dorée, cette thèse eh bien, ne fait pas l'unanimité. Des journalistes, des musiciens l'ayant vécu portent un regard plus sombre. À les entendre, la Britpop aurait préparé le terrain au Brexit en remettant à la mode le drapeau, l'Union Jack et les valeurs traditionnelles anglaises. Tout cela aurait en quelque sorte encouragé le réveil du nationalisme. Une affirmation qui scandalise les frères Gallagher. Au moment de reformer Oasis, Liam et Noël ont enterré la hache de guerre et ils partagent le même constat. Le Brexit est une catastrophe pour leur pays. N'allez surtout pas leur dire qu'ils y sont pour quelque chose.
Ne regardez pas en arrière avec colère, Cyril, c'est ce qu'il dit le monsieur. Merci beaucoup, à lundi prochain.